Et ce matin, en ce début de semaine, eh bien, nous avons décidé de reconnaître et surtout soigner l'arythmie cardiaque. On fait le point sur ce trouble du rythme cardiaque. Il en existe plusieurs types de gravité variable, une maladie qu'il faut surveiller de très près. Et pour en parler avec nous, professeur Ahmed Bennis, comme tous les lundis matins. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes professeur de cardiologie à Casablanca. D'abord, comment peut-on définir l'arythmie cardiaque et quelles peuvent en être les différentes formes ?
Alors, l'arythmie cardiaque, c'est arythmie, c'est un trouble du rythme. Nous avons tous un rythme régulier qui est compris entre 60 à 80 battements par minute. Nous avons une activité électrique régulière qui est sous-tendue, qui est guidée par un nœud au niveau de l'oreillette droite, c'est le nœud sinusal, et qui va être un peu ce qu'on appelle le pacemaker, qui va donner le rythme du cœur. Et le rythme du cœur est un rythme qui va être à fréquence régulière, qui va varier d'un individu à l'autre.
D'accord.
Et notre rythme cardiaque va être rythmé par un certain nombre de choses. Par exemple, si on fait une activité physique, notre rythme cardiaque va monter. Si on prend du café ou on prend un excitant, ça va monter, et notre rythme peut varier en fonction de deux éléments importants. Soit on a une fréquence cardiaque qui va dépasser 100 battements par minute. À ce moment-là, on aura une accélération du rythme du cœur, ce qu'on appelle une tachycardie. Soit notre rythme cardiaque va être en dessous de 50, voire 45 battements par minute. À ce moment-là, on va parler de bradycardie. Brady, ça veut dire arythmie. Alors, les troubles du rythme peuvent toucher, vous savez que nous avons les deux oreillettes et deux ventricules, ça peut toucher les oreillettes, ça peut toucher les ventricules. Alors, les troubles du rythme les plus fréquents qu'on retrouve dans la population en général, c'est les troubles du rythme à l'étage des oreillettes. Et à ce moment-là, le trouble du rythme le plus fréquent, le plus commun, c'est la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire que la contraction des oreillettes va être complètement irrégulière, anarchique, et on va voir la fréquence de cette fibrillation auriculaire des oreillettes augmenter avec le vieillissement de la population, parce que c'est, on va dire, un processus de vieillissement des oreillettes qui va se traduire par la fibrillation auriculaire, qui est le trouble du rythme le plus fréquent.
Alors, professeur Bennis, quels peuvent en être les signes qui devraient nous en alerter ?
Alors, les signes qui peuvent nous alerter sont essentiellement les palpitations du cœur, les palpitations, c'est-à-dire on va sentir son cœur qui va s'emballer. Mmh. Normalement, nous ne sentons pas notre cœur, nous n'avons pas de sensation des battements du cœur. Quand on a une sensation désagréable du cœur, quand on sent que son rythme du cœur est en train de changer, qu'il va partir dans tous les sens, qu'il va devenir anarchique, où on va sentir, par exemple, comme des coups de bélier, comme des contractions irrégulières dans notre corps, on le sent, à ce moment-là, ça peut traduire un trouble, une tachycardie ou des extrasystoles. Ailleurs, on peut sentir des malaises, des pertes de connaissance totales ou des pertes de connaissance brèves qui peuvent traduire parfois un ralentissement du cœur assez sévère.
Alors, les personnes à risque, est-ce que les plus jeunes sont également concernés, professeur Bennis ?
Alors, en général, les arythmies surviennent à partir de l'âge de 60 ans,
oui,
c'est-à-dire lorsqu'il y a le processus de vieillissement qui est bien entamé, chez les personnes qui ont de l'hypertension artérielle, qui ont du diabète, qui ont du cholestérol, qui fument, qui ont du surpoids et qui cumulent les facteurs de risque cardiovasculaire. Et ces processus, ces facteurs de risque, vont entraîner un changement de forme, des anomalies anatomiques au niveau des deux oreillettes ou des ventricules. Vous savez que les deux oreillettes vont recevoir le sang et les ventricules vont les propulser. Et le rythme cardiaque est régi par des impulsions électriques périodiques. Et ces facteurs de risque vont changer ces pulsions, ces impulsions électriques périodiques et donc vont entraîner des contractions asynchrones, c'est-à-dire des contractions qui ne sont plus synchrones. Il y a un certain nombre de facteurs qui vont survenir, comme par exemple les hormones, les substances dans le sang, les systèmes nerveux autonomes. Mais en général, le profil type d'une personne qui va faire des troubles du rythme, c'est une personne de plus de 60 ans qui va cumuler les facteurs de risque. Ailleurs, on peut trouver des troubles du rythme chez les personnes qui sont jeunes. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont stressées, angoissées, qui prennent beaucoup de café, beaucoup d'excitants, qui parfois prennent des boissons énergétiques en grande quantité, et des personnes qui veillent beaucoup la nuit, qui fument et qui prennent trop de café. Donc ça peut donner, ou parfois de l'alcool, tout ça peut donner des troubles du rythme par hyper-excitabilité. C'est-à-dire le cœur va être excité plus que la normale par le biais du système nerveux autonome.
D'accord. Alors quels seraient les risques à moyen et à long terme, professeur Benis?
Alors, on va parler des troubles du rythme les plus fréquents et les plus importants.
Oui.
La fibrillation auriculaire, c'est pratiquement la plus fréquente des arythmies graves et qui va se traduire par des contractions irrégulières des oreillettes. Et donc, à ce moment-là, le son aura tendance à stagner, ce qui va favoriser la formation de caillots dans les oreillettes, ce qui peut conduire à un accident vasculaire cérébral. C'est pour ça qu'il faut dépister ce genre d'arythmie, parce qu'il faudrait le protéger les personnes contre contre l'accident vasculaire cérébral et donner un traitement qui va fluidifier le sang et un traitement anticoagulant. On peut avoir la demi-sœur de la fibrillation auriculaire, ce qu'on appelle le flutter, et qui peut être responsable cette fois d'insuffisance cardiaque, comme la fibrillation auriculaire, et d'accidents vasculaires cérébraux. Et le trouble du rythme le plus grave à l'étage ventriculaire, c'est la fibrillation ventriculaire. Parce qu'à ce moment-là, les ventricules vont battre à un rythme très rapide, au-delà de 250 battements par minute, et donc le ventricule ne va plus pouvoir se contracter de façon mécanique, et ça va réaliser comme un arrêt cardiaque qui peut nécessiter, bien sûr, un choc électrique. Et si la tachycardie ne cesse pas rapidement, ça peut entraîner la mort en quelques minutes. Et on peut avoir une tachycardie ventriculaire, c'est-à-dire des ventricules qui vont battre à un rythme très élevé, plus de 200 battements par minute. Ça peut précéder la fibrillation auriculaire, la ventriculaire, et entraîner la mort subite. Et on a d'autres troubles du rythme, qui sont les extrasystoles. Ce sont des extrasystoles, ça veut dire extra, en dehors, et systole, c'est contraction. Ce sont d'autres cellules qui vont appartenir au noeud sinusal, qui vont générer une impulsion électrique. Et à ce moment-là, le cœur va battre prématurément, avec des pauses. Il va reprendre les contractions normaux. Donc à ce moment-là, lorsque on a des extrasystoles auriculaires, lorsque les oreillettes sont touchées, ça, c'est généralement, c'est banal, on donne des traitements qui vont ralentir le cœur ou des traitements tranquillisants. Et parfois, ça peut être des extrasystoles ventriculaires lorsque les ventricules sont en jeu. Et à ce moment-là, on a des traitements spécifiques. On peut avoir aussi la bradycardie, le ralentissement du cœur. Alors ce ralentissement, il va y avoir une diminution du rythme du cœur ou de 50 battements par minute. Alors la bradycardie, ça peut être tout à fait naturel chez les très grands sportifs, chez les personnes qui font des sports plus de 8 heures à 10 heures par semaine. Par exemple, les sportifs qui sont marathoniens ou qui ont l'habitude de faire du sport de très haut niveau. Et parfois, ça peut être dû au fait que la batterie du cœur est fatiguée et ça peut donner des problèmes de transmission de l'impulsion électrique dans le cœur. C'est ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire. Et à ce moment-là, parfois, quand ça survient chez des personnes âgées, quand ça donne des pertes de connaissance ou des hypotémies, des pertes de connaissance, bref, à ce moment-là, on sera obligé de mettre en place un pacemaker. Et puis, il y a la tachycardie, qui correspond à un rythme de plus de 100 battements par minute et qui peut survenir, qui peut être bénigne, ou parfois, quand elle va dégénérer en fibrillation, c'est le terme fibrillation qui est un peu dangereux, ça peut nécessiter un traitement spécifique.
Alors, le traitement, justement, professeur, on y arrive. Comment traitez-vous ce trouble du rythme cardiaque?
Alors, bien sûr, les traitements, vous l'avez bien compris, c'est en fonction du type d'arythmie.
Oui.
Parce que l'arythmie, ça regroupe quelque chose d'assez large. Alors, la première des choses, c'est d'abord, lorsque c'est bénin, à ce moment-là, les médecins vont rassurer dans la majorité des cas. Il ne faut pas qu'on lance des messages qui effraient ceux qui nous entendent. En général, dans la majorité des cas, les arythmies, c'est bénin. Donc à ce moment-là, on privilégie une approche hygiénodiététique, la diminution ou l'arrêt des excitants comme le café ou l'alcool, le repos, quand les personnes ont trop forcé sur l'exercice physique, ou ailleurs, lorsqu'ils ne font pas assez d'exercice physique, c'est de faire de l'activité physique régulière. Pour les formes les plus graves, c'est l'utilisation de traitements contre les troubles du rythme. C'est-à-dire, on va donner des bêta-bloquants, des médicaments qui vont ralentir le rythme du cœur, qui vont empêcher le cœur de s'emballer. Et quand il y a une indication, par exemple dans la fibrillation auriculaire, on l'a vu parce que ça peut favoriser la formation de caillots dans les oreillettes, on donne un traitement anticoagulant qui sera pris par voie orale. Et parfois, lorsque les troubles du rythme sont résistants, à ce moment-là, on va les détruire aujourd'hui par des nouvelles méthodes comme la cryoablation, c'est-à-dire on va envoyer des circuits de froid au niveau des zones qui génèrent le trouble du rythme, et on va détruire les cellules à l'origine de la rythme. On peut faire l'ablation par radiofréquence. Donc on va faire comme une brûlure par un courant électrique à haute fréquence qui va brûler la zone qui est responsable du problème. Parfois, dans les cas où le cœur est très lent, avec des bradycardies, on va stimuler le cœur, on va mettre un pacemaker. Et quand il y a des risques, par exemple, de tachycardie, fibrillation auriculaire, rappelez-vous ce qui est arrivé au joueur Eriksson le Danois,
oui.
À ce moment-là, on va mettre un défibrillateur automatique implantable dans le cœur. C'est un dispositif qui permet la détection de toute variation du rythme cardiaque et qui va déclencher un microchoc électrique pour la ramener à la normale. Donc vous voyez que c'est un traitement pratiquement du cas par cas, et tout dépend de la gravité et de l'importance de ce trouble du rythme et
très
cette
bien.
Arythmie.
Alors pour finir, professeur Ahmed Benni, je rappelle que vous êtes spécialiste en cardiologie. Quels seraient vos conseils, et puis peut-on prévenir cette maladie?
Alors la prévention, c'est bien sûr avoir de l'hygiène de vie, une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas prendre trop d'excitants, faire de l'exercice physique, surveiller son poids, lutter contre la sédentarité. Donc tout ça, c'est des règles de base qui sont simples. Et à partir de la quarantaine, c'est de faire un examen complet, faire un électrocardiogramme, prise de tension artérielle, et des examens biologiques simples comme la glycémie, le cholestérol, et donc prendre sa tension artérielle. Et puis, quand on a des sensations de palpitations, des sensations anormales de battement, à ce moment-là, on va voir son médecin le plus rapidement possible. Nous avons beaucoup évolué sur les moyens de dépistage donc de ces troubles du rythme, en particulier dans les formes asymptomatiques. Alors aujourd'hui, on a l'électrocardiogramme de repos, on a l'électrocardiogramme sur 24 heures, le Holter de 24 heures, et aussi on a, pour des cas qui sont ciblés, par exemple des cas qui ont une prédisposition génétique, ou des cas qui sont un peu particuliers à ce moment-là, on va mettre en place des holters qui vont étudier et qui vont permettre de déceler si le trouble du rythme paroxystique, ces formes de trouble du rythme qui viennent et qui reviennent. Et on va faire ces holters implantables qui peuvent durer une semaine, 6 mois, une année, pour voir quel est ce trouble du rythme. Ailleurs, on assiste dans les derniers temps à des bracelets ou des montres connectées dans le grand public, qui permettent de suivi du trouble du rythme. Mais attention à leur fiabilité, parfois controversée, c'est en général un complément aux techniques habituellement utilisées. Il faudrait toujours se référer au médecin, parce que non plus ça ne doit pas être anxiogène, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps connectés, et ça peut créer plus de l'anxiété qu'un vrai apport médical.
Parfait, professeur Ahmed Benni. Je rappelle que vous êtes professeur de cardiologie à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce lundi encore. Et c'est un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site medien.com. À très bientôt, professeur Benni.
Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.